Nous allons certainement vers des temps difficiles, pleins de conflits, mais des possibilités de libération, d'émancipation, de développement et d'enrichissement de la vie s'offrent à nous qui n'ont jamais existé avant.
La propriété la plus caractéristique des humains, c'est leur pouvoir de s'adapter à toutes sortes de choses. Et je le répète, c'est même là un danger.
CO2, mon amour.
Pour moi, c'est une des figures les plus intéressantes, Pandore, dans l'histoire de l'Occident.
C'est souvent mal parti, mais on peut toujours réparer. Et quand on répare, quelque chose de nouveau se produit, quelque chose de nouveau qui est souvent beaucoup plus intéressant que ce qui était avant qu'on ait commencé à faire des dégâts.
Denis Chessoux sur France Inter.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine de nature et d'environnement CO2 mon amour, parce qu'on n'attend pas le changement mais que nous sommes nous-mêmes le changement, avec aujourd'hui à la technique à la porte de Versailles Patrice Klein, Georges Thau, Nicolas Estorge et Tanguy Le Corneau. Oui, il y a du monde, et assisté de Claire Destacan, sans oublier Albert Houx et Stéphane Ronxin qui réalisent l'émission. Émission qui débute toujours par une petite humeur, vous le savez. Donc bienvenue au Salon du Livre de Paris à la Porte de Versailles. Bienvenue donc dans cet endroit où l'on croisait il y a trois semaines encore des vaches gascognes, des cochons du Béarn, des poulets landais, des CRS, des manifestants. Ah bah oui, l'agriculture et son lien indéfectible entre l'homme et la nature. Alors pour un peu, on aurait convié nos invités à prendre place sur une litière, hein. Mais finalement, comme on voulait pas plier l'émission au bout de 5 minutes, on a quand même opté pour des chaises un peu inconfortables mais traditionnelles. Elles sont pas paillées, bref. En somme, quand ce ne sont pas les animaux d'une ferme idéalisée, ou des voitures aux performances aussi transparentes que les comptes d'exploitation d'une filiale d'une banque logée dans un paradis fiscal, eh bien ce sont des écrivains que l'on entasse ici, au-dessus d'une feuille de format A4, pour signer au choix leurs chefs-d'œuvre comme leurs inepties, car quelle que soit la qualité de l'écriture, eh bien les forêts restent dévastées absolument à l'identique. Hein. Un auteur de best-seller faisant autant de dégâts qu'une escouade de tronçonneuses lancée à plein régime à travers l'Amazonie. Bon, j'exagère un peu, je sais, toujours. Alors, nouveauté, vous avez compris. Cette année, le Salon du Livre de Paris est sobrement donc devenu Livre Paris. Modernité géniale, on rabote, on tasse les mots pour gagner du temps, on cause la France en SMS sans le du, sans le de, les articles, allez hop là, ça va au compost. La réforme de la langue française, où ça va se nicher quand même, hein, dans les nénuphars maintenant avec un F, ça va se nicher dans les oignons sans i. Déjà la nature en a pris un coup, et aujourd'hui, même dans un salon du livre dédié à l'écrit, eh ben l'article, il est vraiment à l'article de la mort. Vive le marketing. Bon, alors qui dit presque printemps, parce qu'on y est presque, dit aussi grand nettoyage, donc qui va avec. Un grand nettoyage qui a déjà commencé, l'environnement qui a saturé l'actualité, un grand renfort donc de COP21 prend aujourd'hui, on va dire, des allures parfois d'un peu d'immense vide-grenier, hein, la pêche en eau profonde, et ben on continue comme avant. La biodiversité. Est-ce que vous entendez encore parler de biodiversité? Je suis pas sûr. Alors cette fois-ci, c'est décidé, tout doit disparaître, y compris ces vieilleries auxquelles on a fini par s'attacher, la taxe carbone, le thon rouge, le tigre, bien sûr, rayé, bientôt de la liste, le requin taupe, ah bah, mais le requin taupe, il était trop myope, hein, donc inadapté pour les écrans modernes, l'abeille, bah, l'abeille, elle a qu'à supporter les néonicotinoïdes, ah bah ouais, le coquelicot, et le coquelicot, il a qu'à s'acheter des actions de Monsanto, bah, c'est comme ça. Et même avec la disparition progressive des zones humides, il paraît que les grenouilles ne trouvent plus refuge que dans les bénitiers. Cela dit, avec ce qu'on entend sur l'actualité religieuse, c'est peut-être dangereux pour elles. Bon, alors bienvenue donc, chers amis, dans cette émission consacrée à l'écolo-vie, garantie 100% écolo-viable, quasiment moulée à la louche, pleine de poésie et sans garantie, avec garantie sans OGM, OGM signifiant octosyllable grossièrement maltraité. Bienvenue à tous! Avec nos invités donc en direct de ce salon du livre de Paris, vous l'appelez comme vous le souhaitez, il n'y a aucun problème. Isabelle Lefort, qui est journaliste avec son atlas de la planète positive, qui va nous faire beaucoup de bien. Nous avons Marc Giraud, qui est naturaliste et qui va nous faire rêver avec sa vie rêvée des morpions, avec son safari dans la bouse. Mon ami Yannick Jolin, je le dis, qui est en spectacle actuellement au Bouffe du Nord, qui est un formidable conteur. On va y aller en improvisation, on va parler de nature donc aussi avec Yannick. Et puis donc Dominique Bourg, qui est philosophe, qui est professeur à l'Université de Lausanne, qui est aussi le vice-président de la Fondation donc Nicolas Hulot, et puis donc qui a sorti à la fois le dictionnaire de la pensée écologique au PUF, et puis aussi la pensée écologique, donc une anthologie. Alors ça nous intéresse bien, Dominique Bourg, avec vous, parce qu'en fait, l'écologie, en fait, on se dit que, en regardant cet ouvrage, bon, on le savait déjà depuis longtemps, mais c'est pas simplement une question de petites fleurs, c'est aussi ça, mais c'est aussi une remise en question véritable de la modernité.
Oui, c'est même la première critique la plus constante, peut-être la plus forte et la plus profonde de la modernité, et ça depuis belle lurette. Depuis, disons, la fin du premier tiers du 19e, moitié du 19e siècle.
Alors ça, c'est très important de le rappeler, parce que pour beaucoup de personnes, on se dit l'écologie, ça a commencé avec René Dumont, avec son fameux vers en 1974, à la présidence de la République, et puis donc avec Cousteau. Donc tout cela, on fait un sacré boulot, mais ça remonte...
Ça remonte bien plus loin. On va trouver des textes sur le souci pour les générations futures, sur le fait que... Pour penser global, faut agir local, l'inquiétude face à un degré de destruction, l'inquiétude face à l'espèce d'obstination des hommes à détruire leurs conditions d'existence, etc. Tous ces thèmes-là, on les trouve de façon manifeste, explicite, dans des textes qui vont monter en puissance à partir des années 1830, 1840, 1850. Bon, il y a un peu une interruption, pas tout à fait une interruption, mais ça se ramollit un peu dans l'entre-deux-guerres parce qu'on a d'autres soucis et ça réémerge très fort après la Deuxième Guerre mondiale.
Est-ce qu'on peut dire que Jean-Jacques Rousseau, on va dire, c'était un des fondateurs? Parce que quand même, à l'époque, dans ce XVIIIe siècle, on avait la trouille de la nature d'un côté, et puis on voulait exploiter la nature. Bon, c'était une autre manière de voir le monde. Mais lui, c'était le contraire.
Ah oui, alors lui, c'est disons, si on peut dire ça comme ça, un peu le grand-père hein, de l'écologie. C'est-à-dire c'est celui qui va promouvoir un sentiment de sympathie vis-à-vis de la nature, une empathie extrêmement forte et... y voir une ressource morale extrêmement importante. Donc là, effectivement, c'est le premier à avoir fait changer nos mentalités et avoir vu dans la nature quelque chose à la fois de beau et donnant un sens à l'existence.
Alors, il y a aussi, évidemment, vous convoquez Henri David Thoreau, donc poète, philosophe, naturaliste américain. Donc,
c'est le répondant américain.
Voilà, ce répondant américain, donc qui a fait sa petite expérience tout seul pendant 2 ans dans sa cabane au fond du jardin. Et alors, il y a aussi quand même des gens comme Ernst Haeckel, donc naturaliste allemand aussi du 19e. On lui doit quand même un mot important.
Ah oui, alors on lui doit le mot d'écologie, hein, et il l'a défini de façon tout à fait exacte comme la science qui a pour objet l'étude que les êtres vivants entretiennent entre eux et avec leur milieu. Ce qui est toujours le sens de l'écologie scientifique.
Ce que je trouve très intéressant dans cette pensée écologique, c'est qu'en fait, il y a eu beaucoup de personnes qui ont eu des intuitions. Et il se trouve que ces intuitions se sont avérées exactes parce que la science, fort heureusement, aussi est arrivée pour étayer tout cela. Mais voilà. Donc, alors moi, j'ai découvert un homme qui s'appelait Eugène Husard, officier de santé. Il est mort en 1890. Ouais. Bon, et lui, il disait que l'équilibre du monde finira dans 2 siècles par être menacé par les émissions de dioxyde de carbone.
Oui, c'est assez extraordinaire. Effectivement, c'est un avocat aussi. C'est quelqu'un d'un peu fantasque, hein, Eugène Husard, qui a publié 2 livres autour des années 50, qui ont eu un petit livre dont La fin du monde par la science, et ce sont des petits livres pleins d'intuitions. Vous venez d'en rappeler une, effectivement, qui a été avérée par la suite, à savoir le poids de nos émissions de dioxyde de carbone dans l'atmosphère.
Est-ce que l'on peut dire aussi que le terme d'écologie, on va dire cette fois-ci politique, écologique, politique, avec la critique du PIB, est-ce que ça vient d'un homme qui s'appelait Bertrand de Jouvenel?
Absolument. Bertrand de Jouvenel, c'est souvent quelqu'un d'oublié. C'est aussi quelqu'un, en général, que les écologistes mettent de côté. Vous allez comprendre pourquoi, parce que il adhère au parti Doriot très rapidement.
Ah oui, c'était pas le bon choix.
Il a pas fait le bon choix. Ensuite, après Bertrand de Jouvenel, journaliste très brillant, etc., est invité par Adolf Hitler.
Oui, quand même.
Et
autre mauvais choix.
C'est pas un très bon choix. Il publie une interview d'Adolf Hitler où il dit que Adolf l'a très bien reçu, que c'était un garçon très très sympathique et qu'il adore la France. Vous imaginez la gueule de bois en 40. Enfin, cela dit, son papier met un certain temps à paraître, tout simplement parce qu'évidemment, les nazis l'ont manipulé et voulaient simplement culpabiliser les Français d'avoir signé un accord avec les soviétiques, tout en sachant qu'ils ne pourraient pas. Et là,
mais d'un point de vue écologique, quand même,
alors,
effectivement,
d'un point de vue écologique,
du PIB.
Justement, c'est ça qui est intéressant, c'est l'évolution du personnage. C'est aussi quelqu'un qu'on associe parfois au néolibéralisme, ce qui est faux, mais parce qu'il a été membre de la Société du Mont Pèlerin. Alors donc c'est quelqu'un qui dans ses jugements personnels s'est souvent trompé. C'est par exemple quelqu'un qui disait de François Mitterrand que c'était un individu extrêmement sincère. Je ne pense pas que ça a été la première qualité de François Mitterrand. Mais en revanche, sur le plan, si vous voulez, du devenir des civilisations, c'est un type qui a été extraordinaire et un peu comme Ellul, qui a tout compris et tout vu, j'exagère un peu, mais à l'avance. Et par exemple, Bertrand de Jouvenel, c'est un des premiers critiques du PIB, et c'est un des tout premiers, à la limite presque dès la fin des années 50, début des années 60, à comprendre que l'enrichissement matériel individuel nous rend heureux jusqu'à un certain... Enfin, disons, permet notre bien-être jusqu'à un certain point, mais à partir d'un certain seuil... Eh bien, ça n'est plus le cas, et ça pourrait même, disait-il, donner l'inverse. Et c'est ce que l'on peut mesurer aujourd'hui. C'est ce qu'on a mesuré peu de temps après lui, mais c'était déjà aussi d'autres pionniers, un économiste qui s'appelait Sterlin. On parle du paradoxe d'Sterlin. C'est-à-dire, effectivement, que l'enrichissement matériel accompagne le sentiment de progression de son bien-être jusqu'à un certain stade, et ensuite, après, se disjoint.
Alors, Dominique Bourg, si on clique aussi sur l'actualité, on pourra continuer tout à l'heure, mais si on clique sur l'actualité, donc là, interdiction des néonicotinoïdes. Bon, donc, évidemment, ça fait gueuler les agriculteurs qui vous disent « on n'a plus de méthode », c'est-à-dire comme si on avait fait que de la chimie depuis... Oui. Voilà. Et, mais ça, on comprend, ils jouent leur rôle. Il y a eu quand même une pression très forte de Bruno Leroux, aussi député donc PS, pour essayer de laisser ces néonicotinoïdes en place, aussi de Stéphane Le Foll. Donc, comment vous analysez cela ?
Alors, de façon très très simple, on a des députés qui font un forcing contre et des sénateurs hein, qui font un forcing depuis des années. C'est chez eux une véritable obsession contre le principe de précaution. Or, les néonicotinoïdes ne sont pas le seul facteur d'effondrement des populations d'abeilles, mais on a pu maintenant le prouver. Il joue un rôle évident par rapport à ça. On avait des doutes relativement sérieux depuis une dizaine d'années, si ce n'est même une quinzaine d'années. Et on aura attendu aussi longtemps, si tant est que les sénateurs confirment la position des députés. Ce n'est pas encore fait. Donc, ces gens qui critiquent le principe de précaution racontent en général n'importe quoi, ne savent pas de quoi ils parlent. Et le problème, c'est que là, on aurait dû l'employer systématiquement pour différentes affaires. On ne le mobilise pas. Donc voilà un principe qui est très peu mobilisé, mais pourtant qui fait l'objet d'une espèce d'obstination critique relativement obtuse.
Alors je me tourne vers Marc Giraud qui a écrit à la fois « La vie rêvée des morpions » et « Safari dans la bouse » entre autres choses.
Mais il y a un lien direct.
Mais c'est ce que j'allais vous dire, cher Marc, parce que donc vous êtes aussi membre de l'ASPAS. Rappelez-nous quand même, en tant que vice-président,
l'Association pour la protection des animaux.
Oui, un animal, ouais, comme vous voulez. Non mais de toute façon, on réforme la langue française.
On est au salon du livre.
Hein. On s'en fiche, ben oui, c'est pas un problème. Donc voilà. Bon, et donc
ça fait que 30 ans que j'y suis, donc
c'est pas grave. Et donc on vous apprendra sur ce thème-là.
Et oui, alors le principe de précaution, d'accord, mais ce qu'on néglige totalement, là c'est de la vue à court terme, c'est qu'on néglige le rôle des insectes et leur valeur, mais même leur valeur financière en millions et en millions d'euros ou de dollars. Les abeilles, il n'y a pas que les abeilles, parce qu'on parle que des abeilles derrière les nicotinoïdes, il y a aussi toutes les espèces pollinisatrices. On a 1000 espèces d'abeilles sauvages dont on ne parle jamais.
Qui sont même plus importantes que les abeilles domestiques.
Oui. Qui fécondent à peu près 9 fois mieux qu'une abeille domestique, parce que les abeilles domestiques, elles mettent ça dans des sacs et elles rentrent chez elles avec le pollen. Alors que les sauvages sont plus sauvages, elles s'en mettent partout et elles pollinisent beaucoup mieux. Donc ces insectes rapportent des millions et c'est un rapport direct avec les bouses et avec les bousiers, avec ceux qui dégradent le sol, qui ont une importance mais aussi économique. S'il faut parler que de pognon, parlons que de pognon. Vous savez que bon, c'est une histoire qui commence à être connue au XVIIIe siècle. En Australie, on a importé des millions d'ovins et de bovins. Il y avait 400 à 500 millions de bouses qui tombaient tous les jours sur le sol australien et qui n'étaient pas dégradées. C'était une catastrophe sanitaire, écologique, économique. Donc on a fait appel à des entomologistes, des spécialistes des insectes qui sont allés en Europe et en Afrique chercher des bousiers adaptés aux différents climats de l'Australie. On a introduit ces bousiers en Australie et ces petits insectes ont sauvé l'Australie. Autrement dit, sans ces petites mouches et ces petits trucs devant lesquels tout le monde se bouche le nez, sans eux, on serait quand même sacrément dans la merde.
Voilà, c'est exactement, absolument. Donc Safari dans la bouche, je vous recommande merveilleusement. On va poursuivre donc ce voyage à travers la philosophie, à travers la planète positive, à travers les contes avec l'ami Yannick Jolin, avec Marc Giraud. Vous êtes bien sur France Inter, vous êtes bien dans CO2 Mon Amour. Et voici une première chanson. We'll be right back.
ticket for an airplane. Ain't got time to take the fastest train. My lonely days are gone, I'm going home. My baby just wrote me a letter. I said I don't care how much money I gotta spend. I got to get back to my baby again. My lonely days are gone, I'm going home. My baby just wrote me a letter. Oh, well, she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more? Anyway, yeah, Lord, she wrote me a letter. Give me a ticket for an airplane. I ain't got time to take the fastest train. My lonely days are gone, I'm going home. My baby just wrote me a letter. Yeah, she wrote me a sweet letter, telling me she loves me. Oh, well, she wrote me a letter just to tell me she couldn't live without me no more. I said, now listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, she wrote me a letter, told me to come on home. She's tired of being alone. I said she wrote me a letter and said to come on home now. I want a ticket for an airplane. I ain't got the time, I ain't got the time to take.
Le sacré autrefois était toujours dans la nature, et maintenant la nature elle est tout à fait désacralisée, et c'est la technique qui apparaît à l'homme moderne comme du sacré.
CO2 mon amour, Denis Chessou sur France Inter.
Une voix que connaît bien Dominique Bourg, notre philosophe, parce qu'il s'agit de Jacques Ellul, professeur d'histoire, donc de droit bordelais, qui n'est plus de ce monde, qui était aussi un homme sociologue, et qui nous a dit en fait que la technique allait devenir un processus quasiment autonome. Quoi.
Alors on est pratiquement dedans aujourd'hui. Alors cela dit, l'autonomie de la technique, elle est inséparable de l'autonomie de l'économie. Hein, c'est-à-dire que on ne prend en compte que des facteurs financiers et on se moque du reste. Aujourd'hui, on est une économie qui produit, pour reprendre l'expression d'un très bon économiste, Pierre-Noël Giraud, qui produit des inutiles.
Oui.
Des gens dont on bafoue la dignité. Et effectivement, c'est une forme, si vous voulez, d'épreuve, de confirmation de ce que racontait Lull il y a très longtemps. Cela dit, Lull, avec son ami Charbonneau, dès les années 30, avait écrit un très magnifique texte qui a été republié il n'y a pas très longtemps dans une très bonne collection des éditions du Seuil. Et ce texte s'appelait la force révolutionnaire du sentiment de la nature. Je trouve ça très joli.
Voilà. Donc, on continue à picorer dans cette, à la fois ce dictionnaire de la pensée écologique et la pensée écologique de Dominique Bourg. Yannick Jolin est arrivé. Bonjour, cher Yannick Jolin.
Bonjour.
Alors, cher Yannick Jolin, moi, je vais rappeler que vous faites quand même un des plus vieux métiers du monde. Il s'agit de quoi?
Comme péripatéticienne.
C'est ça.
Oui.
Et donc, vous êtes conteur.
Je suis conteur.
Vous êtes conteur. Vous êtes toujours originaire à la fois de Vendée. Après, c'était les Deux-Sèvres.
Oui, j'étais réfugié politique longtemps.
Je comprends très, très bien. Et alors, donc, vous êtes en ce moment, donc, au Bouffe du Nord avec un spectacle quand même tout à fait formidable. Alors, qui parle là aussi qui parle des religions, qui s'appelle Comme vider la mer avec une cuillère. Je vous le recommande. Moi, j'avais vu à peu près au moment de la dixième où vous rodiez encore ce spectacle. C'est formidable. Donc, c'est au Bouffe du Nord, Comme vider la mer avec une cuillère. Ce qui m'intéresse bien aussi dans cette émission, c'est de savoir comment la nature, qui a toujours inspiré en fait les créateurs, comment elle vous inspire, vous? C'est un matériau pour vous aussi de conte?
Ben oui, surtout dans un espace comme ici aujourd'hui, avec un pic de pollution sur Paris, avec un bazar sans nom dans un salon du livre. Je trouve que c'est l'endroit le plus formidable
du
monde
pour parler
d'écologie. Bah, on serait à Pougnérisson sur les rochers de granit, je comprendrais un peu mieux, mais là, je dois avouer que c'est un oxymore quasiment,
c'est
cette
ça.
Émission.
C'est ça, mais on aime bien. On aime bien. Bah, déjà, CO2, mon amour, c'est un oxymore. Hein, voilà, donc.
Mais en fait, pour moi, forcément, que en l'occurrence, depuis que j'ai travaillé sur les religions, forcément, de parler de la nature, ça implique forcément de parler du début, la déesse mère, le temps des déesses premières, les religions animistes, tout ce qui était en rapport avec la... C'est le monothéisme qui est le bazar. C'est le monothéisme, parce que là, tout à coup, L'homme devient l'espèce de, d'ambassadeur d'un dieu unique et supérieur. Il s'extrait de la nature et il commence à faire n'importe quoi. Bon, bien sûr, on n'est plus dans un temps circulaire. À l'époque, on était comme des hamsters qui tournaient dans une roue permanente.
On
était
ça,
deux
même,
dans le paradis terrestre. Ah oui, heureusement, Ève, elle a croqué une pomme. Et encore, il n'y a que elle qui a assumé, là ouais. encore au niveau du
mais
féminin.
Il n'y avait pas 30 passages de pesticides sur la pomme à l'époque, hein, pour dire.
C'est pas faux. Hein, je ne sais pas si ça avait été une pomme droguée, ce qu'elle aurait fait, c'est mais en tout cas, elle a assumé, alors que Adam, lui, il n'a jamais assumé. Hein.
Jamais.
Ça, c'est le problème des hommes en général, ça. Et puis en plus, d'un fils faible avec un père trop fort.
Oui.
Ça, c'est un syndrome aussi assez constant.
Ça nous fait de la chair à
psy. Donc après,
hein,
lui,
ça,
il a tout le temps dit oui. Oh, ça m'est resté en travers de la gorge, la pomme d'Adam, tout ça. Bah, après, il faut assumer, c'est ça le problème.
Oui, hein. Je comprends. Oui.
La sortie du paradis terrestre, eh ben, on y est.
C'est ça. Je vais vous lancer d'ailleurs sur la Gâtine et sur le Marais-Poix de Vin, parce que ça aussi, ça peut être tout à fait intéressant. Donc voilà, donc Yannick Jolin-Bouvignon avec une contribution absolument déterminante, disons-le. Autre contribution aussi importante, c'est Isabelle Lefort. Isabelle Lefort, c'est un travail évidemment à plusieurs, puisque vous avez donc rédigé une partie, mais avec toute une équipe de l'Atlas de la planète positive aux éditions des Liens qui libèrent. Je dirais que ça nous fait du bien parce que on est évidemment à la croisée des chemins aujourd'hui dans une société qui est quand même complètement démente, hein, qui va complètement au bout, là, qui épuise un peu la terre comme une orange sur un presse agrume. Et vous vous êtes dit bon, il n'y a pas de fatalité. Donc vous avez voulu tendre le bras à quoi comme idée, on va dire générale par rapport à cela.
Garder un petit peu d'optimisme, c'est-à-dire qu'on est toujours, effectivement, on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, et il y a des tas de gens qui en ont ras-le-bol et qui se bougent, voilà. Et on dit souvent, mais le monde change et on n'arrive jamais à définir exactement ce que ça représente. Or, quand on a commencé à rechercher, eh bien, on s'est rendu compte que dans le monde entier, il y a des gens qui se lèvent, qui agissent et qui peuvent être... Ça peut être un Indien tout seul sur son île qui décide de replanter une forêt.
Attendez,
qui...
celui-là, il est formidable. Il est au milieu du fleuve... Brahmapoutre.
Ah, oui.
Voilà, donc il est tout seul. Et puis, il en est maintenant, l'homme qui plantait des arbres, enfin de Giono, version donc en Inde.
Il en est à 550 hectares.
Ouais.
Et c'est absolument extraordinaire puisque tous les animaux sauvages reviennent parce qu'il y a toute une économie qui peut se recréer et qui est une bonne économie, c'est-à-dire celle de l'écologie. Et à côté de cela, eh bien, il recrée des emplois, il recrée de l'insertion et surtout il redonne de l'espoir et du sens à des tas de gens autour de lui. Donc c'est ça qui est extraordinaire. Mais c'est un exemple et nous, quand on a commencé à rechercher, alors c'était un peu, d'abord un mégalo, deux, c'était le tonneau des Danaïdes, donc on a beaucoup, j'ai fini par en pleurer tellement c'était épouvantable à écrire et à faire, mais en même temps, on rencontre des gens extraordinaires partout et c'est simplement des gens qui refusent effectivement cette fatalité, qui refusent qu'on leur impose des OGM, etc., et qui se mettent en marche. Et ça, c'est extraordinaire. Et c'est vrai qu'on a eu envie de rendre compte à ces initiateurs.
Si nous partons, par exemple, au Mali, bon, on parle d'agroécologie, ça c'est Pierre Rabhi, évidemment, qui a popularisé, on va dire, ce terme, et puis qui l'a appliqué hein, lui-même. Si l'homme est crédible, c'est parce qu'il dit ce qu'il fait et qu'il fait ce qu'il dit, Pierre Rabhi. Et là, vous nous parlez du Centre sahélien de formation et de recherche en agroécologie au Mali.
Voilà, et c'est un homme qui s'appelle Oumar Diabaté, qui était un vétérinaire, qui est devenu fermier, et qui a créé, en fait, qui a rencontré Pierre Rabhi, et qui est devenu un peu l'ambassadeur de Pierre Rabhi en Afrique, et qui désormais, donc, développe sur le modèle de l'agroécologie, donc une ferme qui fournit des fruits, des légumes, etc., et qui non seulement le fait au Mali, mais qui le fait également, qui essaime dans les autres pays autour. Donc voilà, il a pris son petit bâton de pèlerin, et c'est un homme d'une simplicité, d'une modestie exemplaire, à l'exemple de, comme Pierre Rabhi également, et voilà, il donne véritablement un exemple.
Je ne sais pas si les uns les autres, on verra une paix durable, on le souhaite, entre Israël et Palestine, mais bon, c'est vrai qu'on est tous nés avec ce conflit, on ne sait pas comment on mourra avec, mais très intéressant, des oliviers pour rapprocher ces deux peuples.
Oui, l'idée, c'est des Israéliens et des Palestiniens qui travaillent ensemble et qui, au travers de la production d'oliviers, au niveau de la frontière, en fait, plantent des oliviers, recréent donc un modèle économique pour recréer de la production, des emplois, etc. Et aujourd'hui, je crois qu'ils sont de l'ordre de 3000 fermiers à travailler ensemble palestiniens et israéliens. Donc un olivier pour la paix.
Alors si on va du côté de San Francisco, eh bien là, on va pouvoir effectivement s'occuper des vergers. Ça vous plaît beaucoup, donc Isabelle Lefort. On le trouve toujours donc, dans cet atlas de la planète positive. Que vont faire les grafteurs, on va dire enfin,
alors, les guérilla grafteurs, je les adore. Donc en fait, c'est un peu comme les incrédibles comestibles. Ouais. Eux, ils ont décidé d'aller greffer les arbres de la ville. Donc plutôt que d'avoir des platanes, des arbres qui ne donnent pas de fruits, eh bien l'idée c'est de greffer. Alors c'est très compliqué au niveau des espèces, que toutes les espèces ne peuvent pas être greffées, etc., etc. Mais eux, ils en sont, enfin ils sont plus de, enfin depuis 2011, il y a 50 arbres plantés, enfin greffés, pardon, et ils ont créé une carte interactive sur Internet et dont les uns et les autres peuvent suivre, bien évidemment, les floraisons et les productions. Et voilà, New York a commencé. J'espère qu'un jour Paris, incessamment sous peu, va commencer.
Voilà. Bon, vous rappelez aussi très simplement que les AMAP qui sont nés en 2000, donc il y a 16 ans aujourd'hui en France, c'était Denise et Daniel Vuillon. Ils se sont inspirés en fait d'un système japonais.
Absolument. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que nous, on a l'impression parfois d'inventer, mais en fait, ces inventions, elles naissent dans le monde entier.
Bah oui.
Et quand on parlait tout à l'heure de bousier et de chaînes vertueuses, il y a une autre initiative que j'aime bien au Japon, c'est cet homme qui a décidé d'aller chercher une espèce de canard pour que même s'occupent des rizières. Donc ils ont enlevé en fait maintenant, mais c'est un chiffre colossal, c'est plus de ça y est, je ne retrouve plus mon chiffre, bon, c'est ça, 10 000 fermiers qui ont
oui,
10 000 fermiers, c'est colossal, qui ont donc qui maintenant prennent donc ces espèces de canards qui vont manger les insectes, qui grâce à une plante, etc., et toutes ces 10 000 fermiers ont enlevé les OGM. Donc voilà.
D'accord. Et ben ça, c'est un homme qui s'appelait Takao Furano, et on l'a vu aussi dans un film de Jean-Paul Jaude.
Absolument.
Voilà. Et alors, donc tout ça, moi j'ai envie d'avoir votre avis aussi, Dominique Bourg, de philosophe, c'est-à-dire que on est un peu, je dirais, otage d'un paradoxe. C'est-à-dire que d'un côté, il y a pour certaines personnes, encore nombreuses, la persistance d'un déni écologique en se disant la technique va nous sauver en permanence. Et puis en même temps, donc il y a un appel à la prise de conscience et heureusement des actions concrètes. On l'a très bien vu avec le film Demain aussi, s'il a marché. Il y avait eu déjà d'autres films sur ce thème-là, mais là, il arrive à point nommé, quoi. Donc voilà, on est entre les deux, là.
C'est même un genre cinématographique, hein, depuis Colline Serrault jusqu'à Enquête de sens, etc. Et celui de Cyril Dion et de Mélanie Laurent est une réussite. Effectivement, et puis vous le montrez aussi dans votre atlas, il y a aujourd'hui énormément d'initiatives individuelles et plutôt en général des petits collectifs, hein, pour montrer qu'on peut vivre autrement. Ce que montrent toutes ces initiatives, c'est donner tort à Margaret Thatcher, qui, Tina, there is no alternative. Il n'y avait pas d'alternative. Ben, si, il y a des alternatives. En tout cas, il y a des solutions différentes à tous les niveaux. Et c'est précisément le seul moyen de nous faire changer. Et c'est de nous encourager au changement, c'est de nous montrer ces initiatives. Et ça, c'était quelque chose d'extrêmement important. Et là, je crois qu'on est vraiment un tournant, parce qu'on voit bien que dans notre société, ben, ce sur quoi elle s'est construite, le salariat, une idée, si vous voulez, d'accumulation indéfinie, oui, de richesse, etc., toutes ces choses-là sont à la fin.
Ben oui, enfin, si on regarde les
fruits.
Le mimétisme de Girard aussi.
Voilà, mais regardons tout simplement les fruits traditionnels de la croissance et ne les donne plus. On a parlé tout à l'heure du fait que la croissance ne débouchait plus sur l'amélioration du bien-être. C'est le cas. Depuis une vingtaine d'années, on a des gains de productivité qui ne débouchent plus sur de la création d'emplois. Depuis une trentaine d'années, on a une croissance qui ne débouche plus sur une augmentation de la richesse générale, mais au contraire sur une répartition de plus en plus injuste de la richesse.
Et d'ailleurs, donc, c'est bien pour ça que vous citez aussi Tim Jackson dans votre ouvrage, qui avait fait donc ce livre « Comment vivre sans croissance ».
Donc c'était... Tout à fait. Et donc là, on voit bien que le discours sur cette question de la croissance est en train de changer. Le problème, c'est pas d'aller chercher la croissance avec les dents, hein, comme disaient certains.
Oui.
Ça, on n'y parviendra plus. Mais c'est de repenser, de remettre au devant un certain nombre de finalités de la société et d'arrêter de considérer que l'économie c'est quelque chose en soi. L'économie c'est un moyen pour nous rendre moins malheureux.
Alors,
et heureux même.
Là on a de la croissance, c'est quand même les morpions et autres parasites, Marc Giraud.
Je me demandais comment vous alliez accrocher.
Ne vous inquiétez pas, moi j'accroche sans problème. Je suis capable de grandes choses, vous savez. Oui,
donc. Oui, mais en fait, c'est les morpions, parce que c'est un titre accrocheur, hein, on a bien entendu.
Bien sûr.
En fait, c'est capital, et même pour nous-mêmes, d'ailleurs, plus de la moitié des espèces vivantes sont des parasites. Mais au moins la moitié, il y en a qui disent 4 fois plus, les autres, ce sont leurs victimes. Donc on est tous concernés. Hein. Quand on dit le plus long animal du monde, la baleine qui fait 30 mètres, on oublie son ver solitaire qui lui en fait plus de 40. Ouais, c'est tout comme ça. Donc les parasites, c'est vraiment, dans notre vie de tous les jours, c'est très important. Ces pauvres morpions, ils sont victimes de déforestation, puisqu'en fait, il y a la mode des sexes épilés. Vous savez que plus de 80% des étudiants américains, c'est qu'ils le publient.
Vous attendez pas ça.
Donc il y a le ticket de métro, il y a l'intégrale, il y a tout ça. Et ce qui fait que c'est, voilà, les morpions sont en voie de disparition. Peut-être qu'il faudrait les protéger d'ailleurs.
Bien sûr.
En revanche, à cause des selfies, vous savez, pour faire le selfie, on rapproche nos chevelures avec un grand sourire, et là, les poux, ils sont très contents. Parce qu'ils déménagent et ils sont en pleine expansion, eux. Donc, nos petits gestes de la vie quotidienne peuvent avoir une influence sur ces parasites. Et eux-mêmes, on a une grande sur nous. Hein, depuis des milliers d'années, on a plus de 10% de notre génome qui est d'origine virale, c'est-à-dire des maladies que nos ancêtres ont eues, qui font partie de notre génome. Les virus, ce sont des espèces de bouts de génétique, d'ARN, d'ADN qui s'échangent, etc., et qui changent l'évolution. On a du parasite en nous.
Oui.
Et oui. Et d'ailleurs, notre flore intestinale, tout ça,
on a tous en nous quelque chose de parasite, quoi.
Oui, absolument. Et l'homme lui-même pourrait être considéré comme un parasite à la surface de la planète, puisque on se développe comme une moisissure à la surface d'une orange. Donc,
c'est ça. C'est très bien. Ben voilà. Ben, ça laisse. Oui. Ben voilà. Ça laisse pas indifférent nos amis ici présents, ça laisse tout ébobi. Yannick Jolin, quand même, qui a découvert au corps.
Oui, il se gratte depuis un moment.
Il se gratte depuis un moment, mais il se gratte pas sur les scènes.
J'étais déjà fasciné par la punaise de lit, moi, qui a un parasite.
Ah, oui, l'accouplement traumatique de la punaise de lit.
Bien sûr, l'obsédé sexuel de la création.
Mais allez-y, non, parce que ça fait monter l'audimat.
Le mâle a un sexe, un pénis en forme de sabre courbé, et il s'en sert n'importe comment. Il tranche dans le vif la femelle. Ça peut être sur la tête, sur la cuisse, n'importe où. Et ça finit, les spermes finissent par dans les organes génitaux.
Oui.
Donc ça s'appelle un accouplement traumatique. Et il y a certaines espèces de punaises. L'évolution a fait en sorte que les femelles ont un pseudo-vagin dans le dos pour canaliser tout ça. Et même les mâles ont un pseudo-vagin dans le dos. C'est vous dire ce qui se passe dans nos lits.
Oui.
C'est pas réjouissant.
C'est ça. Mais c'est notre monde à nous. Faut l'accepter. Hein. Donc c'est ça le problème, cher Yannick Jolin. Tenez. Là, il y a mon facétieux Stéphane Ronxin, réalisateur, qui vous a préparé sur les morpions une petite chose tout à fait sympathique. Ah.
CO2, mon amour, Denis Chesson.
Et toi, quel est ton nom ?
Je suis Morbac le morpion, regardez comme je suis mignon. Je suis frileux et je m'installe toujours à côté du poil.
Croix,
laisse tomber, t'es trop naze.
Morpion, grattez-les, ils l'ont bien cherché.
Voilà, c'est ça aussi, donc le morpion qui s'est invité.
Vous auriez des profondis morpionibus, mais qui est encore plus cru, et qui est de Théophile Gautier, vous savez, ce grand poète romantique, pote avec Victor Hugo, et tout ça, c'est lui qui a écrit ces paroles très très crues, mais il avait honte, il voulait pas le dire, qu'on le sache, parce qu'en fait, il voulait entrer à l'académie, voilà.
Mais il vous a confié ces paroles avec beaucoup de plaisir. Yannick Jolin, lorsque l'on est presque dans le Marais-Poix de Vin, allez, là aussi, on est quand même la nature est quand même très très inspirante dans ce coin. Alors, nous avons la Gâtine, ce sont des terres pauvres, hein. Là on va être dans les Deux-Sèvres, c'est Parthenay, tous ces coins-là.
Pougnérisson,
nombril du monde, hein, on l'oublie pas, parce que
lieu de saint Pou, un saint qui protège de la folie guerrière, qui est quand même, il devrait être prié largement, longuement, honorablement.
Oui. Et alors sinon, la fée de la Gâtine et autres personnages qui quand même sont issus de la nature, quels sont ceux qui ont pu vous inspirer, vous, en tant que conteur, dans ce Marais-Poix de Vin ou à côté ?
Le Marais-Poix de Vin, c'est un paradoxe, parce qu'en fait, il a été totalement fait par la main de l'homme.
C'est
donc c'est au niveau naturel, c'est un naturel assez...
Henri IV a même d'ailleurs aussi appelé, me semble-t-il, les ingénieurs hollandais pour polderiser aussi cette affaire, après. Donc c'était,
Les Hollandais, les moines.
D'abord les moines.
Et après, surtout, les parias de la terre. C'est-à-dire c'était une terre gâtée. Qui était normalement en dessous du niveau de la mer, qui avait été considéré comme un endroit de déversement intempestif de diverses choses. Puis là, des hommes, des colibères, les cerfs, les gens un peu qui n'avaient rien, aucune terre, ont commencé à s'installer sur ce territoire, ont fabriqué 100 000 km de canaux, ont commencé une économie absolument incroyable qui était faite de pêche, de chasse, mais aussi de petits fruits, de mojettes. Enfin, j'aime la mojette.
La mojette, c'est le haricot.
Bien sûr.
Alors,
oui. Bon, et puis de commerce de bois et ça a été une économie qui a survécu assez bien jusqu'au grand remembrement de la fin des années 50. Donc c'est forcément un endroit, en plus, c'est un endroit qui est très bon pour l'osium, pour cette chose qu'il faudra bien remettre au goût du jour, puisque dans cette nouvelle économie sans croissance, il faudra bien retrouver cette chose essentielle de l'humain qui est une autre vision, qui n'est pas faite sur le travail, mais qui est faite sur le retour à soi. Mais sur l'osium qui a donné l'oisiveté, vraiment.
Ça, c'est formidable pour vous, ouais. Dominique Bourg, on est bien d'accord. Ça...
Ah, totalement. Sans loisir, il n'y a pas d'intelligence.
Oui.
On ne peut pas se cultiver, on ne peut rien faire.
Ah oui, et c'est vrai que nous, il faudra changer ça. Toutes nos vies sont axées autour de cette valeur travail. Et puis, il n'y aura plus du boulot pour tout le monde. Donc, autant se le dire, qu'est-ce qu'on va faire quand on ne fera plus rien ? Eh bien, il faut faire autre chose.
Voilà.
Et pour faire autre chose, il faut se rapprocher de soi. Il faut se reconnecter à soi. On ne peut pas vivre à la périphérie de soi et donc, toute sa vie.
Pas tout le temps.
La première écologie est sans doute là.
C'est l'écologie de soi, mais absolument. Et donc, nous allons convoquer les anges. On a besoin aussi des anges.
Ça me fait plaisir.
Vous allez voir.
Un jour les anges en ont marre qu'on reste sourd à leur mission. Alors avant qu'il soit trop tard, les anges blessés s'envoleront au même signal d'une sentinelle dans un même battement d'ailes. Un jour, tous les anges rebelles rejoindront la vie éternelle. Si tu me cherches ce jour-là, vers l'au-delà, lève les yeux. Si tu me cherches ce jour-là, regarde là-haut vers les cieux. Je serai peut-être parmi eux. Un jour les anges en ont marre de se faire avoir, perdre leurs plumes, sans crier gare, sans faire de bruit, ils s'éclipseront dans la brume. Mais quand les anges disparaîtront, faudra faire sans leur protection. Qui donc y fera attention? Eux qu'on prend pour un garde-pigeon. Si tu me cherches ce jour-là, vers l'au-delà, lève les yeux. Si tu me cherches ce jour-là, regarde là-haut vers les cieux. Je serai peut-être parmi eux. Quand on reste trop silencieux, on ne sait même plus.
Il faudrait que l'homme change vite pour utiliser bien, je ne dis pas efficacement, je dis bien la technique. Et il faudrait que se produise ce que le philosophe français Bergson, il y a bien longtemps, 1930, avait dit: plus la puissance de l'homme augmentera, plus il est important que l'homme ait un supplément d'âme.
CO2 Mon Amour sur France Inter.
Bien, nous tentons les uns et les autres, et là c'est un travail avant tout individuel. C'est vrai que Pierre Rabhi nous rappelle très souvent qu'il n'y aura pas de changement si on ne change pas d'abord nous-mêmes, mais quand même il y a aussi le collectif qui est aussi extrêmement important, parce que si on n'a pas des impulsions
forte, eh bien, on ne bougera pas. Et on a besoin d'exemples. Alors là, c'est formidable parce qu'avec Isabelle Lefort et l'Atlas de la planète positive, aux éditions des Liens qui libèrent, même si tout ceci ne fait pas encore un sens mondial, peu importe, c'est en train de bouger. Ça bouge mondialement. Et lorsque, attendez, alors là, intéressant, un entrepreneur qui est devenu entrepreneur social, qui s'appelle Tony Melotto, il est aux Philippines. Alors, faut imaginer que le gars a une popularité de rockstar, hein, c'est ce que j'ai compris.
Absolument, oui, c'est...
Alors, qu'est-ce qu'il fait de beau, cet homme-là?
Mais en fait, c'est l'ancien patron de Procter & Gamble en Asie.
Ah, bah donc, oui, donc un saint, quoi.
Un saint, mais qui s'est repenti. C'est-à-dire qu'un jour, il s'est rendu compte quand même que quand il sortait de chez lui, entouré de grands murs et de barbelés, eh bien, il y avait énormément de pauvreté autour, etc. Et il a pris conscience et il s'est mis à bouger. Et donc, il a commencé à créer un modèle vertueux et aujourd'hui, il a sorti 2 millions de personnes de la rue. Et il a créé une ferme qui s'appelle la ferme enchantée. Et là, il réintroduit des personnes qui étaient dans les bidonvilles, etc. Il leur réapprend, enfin, leur apprend ou réapprend les modes de l'agriculture traditionnelle. Et il crée, là encore, des paniers, etc. Donc, c'est de l'agriculture biologique et autres. Et il recrée un modèle vertueux. Là, normalement, dans les 5 ans qui viennent, c'est 5 millions de personnes qui vont être sorties des bidonvilles.
C'est toujours intéressant parce que très souvent, vous avez donc des traders qui foutent en l'air la planète. Vous avez aussi des entrepreneurs aussi, bon, qui ne se posent pas les questions. Puis, il y a un moment, ils ont une espèce de révélation. Je ne sais pas si c'est un peu comme Gide à Notre-Dame. Mais voilà, ils se disent stop, on arrête, quoi. Enfin,
ouais,
ça arrive, quoi. Donc,
Ah oui, ça arrive et ils sont extrêmement agissants parce que ces hommes-là ont de l'argent. Et donc, pour démultiplier les projets, etc., enfin, quand on prend Mohamed Younous au départ, Mohamed Younous avait énormément d'argent, même s'il a peu mis de l'argent, etc., mais il a pu frapper aux bonnes portes, etc., et donc la démultiplication est extrêmement efficace.
Alors, puisque la journée aussi mondiale de l'eau arrive cette semaine, un exemple parmi d'autres qui se passe en Suède, mais pour les pays qui ont véritablement besoin de filtrer l'eau avec les UV, donc avec les rayons ultraviolets.
Absolument, enfin, c'est une femme suédoise, une ingénieure suédoise qui, regardant les problèmes d'eau saumâtre et la mortalité liée à l'absence d'eau potable dans le monde, a développé un système donc de fontaine qui permet de filtrer l'eau. Son système, c'est en fait avec un matériel portatif qui arrive à filtrer jusqu'à 30 litres par jour. Donc c'est colossal à l'échelle d'un village, pour les enfants notamment.
Alors, je ne sais pas là, si vous avez envie de bouger, de réagir. On a un micro, hein, pour vous. Pas vous qui nous écoutez derrière le poste, mais voilà, si vous avez... Ben, je vous en prie, chère madame, allez-y. À nos amis, je vous en prie.
Oui, merci à Dominique Bourg pour son rappel des précurseurs de l'écologie, notamment le regretté Jacques Ellul, auquel aussi on pourrait ajouter Robert Hénard, qui est pour son amour de la nature, et celui qui a écrit l'almanach du Comté des Sables aussi.
À Léopold.
Voilà.
On en a plein, on a René Dubos, il y en a énormément, oui, hein, qu'on n'a pas cité. Donc.
Ma question était, y a-t-il d'autres livres d'Ellul qu'on peut relire? Parce que malheureusement, il y a beaucoup de ces livres qui n'ont pas été republiés et qui sont introuvables, sauf dans des fonds de bibliothèque.
Bon, alors ça.
Ah, alors ça, vous me posez une colle, je ne sais pas où on en est dans les rééditions d'Ellul. Je pense que les grands livres sur la technique sont toujours disponibles, ils ont même été réédités régulièrement. Je vous parlais tout à l'heure d'une réédition, enfin même pas une réédition, d'une édition de texte qui datait d'avant-guerre, imprimé comme ça, mais qui n'avait jamais été édité. Et donc, ça fait partie de ces gens, si vous voulez, donc on réédite quand même assez régulièrement, pas tout l'œuvre, mais des aspects non négligeables.
Alors, moi, il y a une chose aussi dans votre livre, Isabelle Lefort, j'y reviens. J'ai découvert qu'il y avait une banque de buffles en Thaïlande. Qu'est-ce que c'est la banque de buffles en Thaïlande?
Mais au lieu de vendre, de vendre de l'argent, eh bien, ils prêtent des buffles. C'est-à-dire que les fermiers ont des problèmes. S'ils cultivent tout seuls, eh bien, ils vont avoir une production très très faible. Ils n'arrivent pas à avoir suffisamment de production pour développer leur activité. Donc, cette banque prête des buffles. Des buffles.
Vous imaginez le distributeur de buffles non, c'est pas comme ça que ça marche.
Je ne sais pas, ça peut être assez sympathique sur la place de la Concorde d'avoir quelques prêts de buffles. Ça pourrait être intéressant. Mais là, donc en fait, ils en sont à 33 000 buffles prêtés. Mais ce qui permet donc quand vous avez un couple de buffles femelles et mâles, etc. Eh bien, en fait, ils prêtent les buffles jusqu'à ce qu'il y ait naissance de buffles, et ensuite les buffles sont amenés à aller dans d'autres fermes. Et résultat, 33 000 buffles et 33 000 fermes qui sont là encore sauvées et qui permettent d'avoir des activités. C'est encore une fois exemplaire.
Voilà, alors Marc Giraud, là aussi, bon, on va pas faire le lien, mais c'est très facile avec votre ouvrage Safari dans la bouse. Là, il y en a deux, hein, la vie rêvée des morpions. Alors, au-delà, évidemment, des titres, tout ceci est extrêmement sérieux. Alors, c'est très drôle dans la manière dont vous l'avez écrit, mais c'est quand même extrêmement fort.
C'est le problème de la langue française. Sérieux, ça veut dire fiable et ça veut dire en même temps pas drôle. Mais on peut très bien dire des choses fiables et sérieuses, mais d'une manière drôle.
Complètement. Donc,
c'est mon problème, ça.
Non, mais c'est très bien. Alors, vous parlez de l'éléphant jardinier, de l'hippopotame, d'ailleurs, aussi jardinier.
Ah, c'est un distributeur de bouse, lui. C'est on ça. S'est aperçu en Afrique, et puis d'une drôle de manière, parce que le mâle fait tourner sa queue comme ça, comme un hélicoptère, et ouais. ça gicle de partout. Et c'est des politesses entre hippopotames, d'ailleurs. Et ils ensemencent les rivières, ils nourrissent les poissons comme ça. Et les rivières africaines où les pêcheurs ont éliminé les hippopotames, ils se retrouvent sans poissons. Donc il y a vraiment un lien, c'est toujours pareil, la nature a une valeur mais immense dont on parle jamais.
Mais c'est tout le côté systémique de l'écologie, Dominique Boursens, ouais. on le voit mais régulièrement. Jean-Marie Pell était formidable aussi pour ça, parce qu'il racontait des histoires, ouais. mais c'était pas simplement l'histoire que de la plante.
Ah oui, absolument.
C'était aussi
alors,
tout ce qui est autour.
Par exemple, pour les bousiers, on flingue avec les vermifuges, on flingue les bousiers. Vous savez, le beau scarabée sacré des Égyptiens qui roule sa bouse a disparu de Camargue à cause du vermifuge pour les taureaux et les vachettes. Et les derniers qu'on a trouvés, les derniers gros scarabées qu'on a trouvé, c'est dans les campings sauvages où les touristes viennent se soulager derrière les buissons. Donc, s'il vous plaît, ne vermifugez pas les touristes.
On ne l'avait pas pensé comme ça, mais effectivement, c'est une recommandation extrêmement importante. Les guerres du guano, pour rester dans la bouse, là aussi,
oui,
c'est extrêmement un très bon fertilisant, le guano.
Oui, il y a du phosphate, donc des milliers de tonnes de guano sur les îles autour du Pérou ont été exploitées et ont engendré des fortunes colossales. Et c'est de là que vient l'expression c'est pas le Pérou, ça ouais. vient de ça.
Tout
c'est le
fait.
Pérou plutôt.
Alors Dominique Bourg, moi j'ai aussi avec vous envie de revenir quand même sur une chose importante. Bon, le mot crise, on l'a pour tout aujourd'hui. Crise morale, crise économique, bon. Crise écologique aussi. À part qu'on est quand même sur un temps qui est très différent avec l'écologie.
Oui, pour l'écologie, on ne devrait pas parler de crise. Non pas qu'il n'y ait pas de problème. Hein. C'est assez clair. Mais tout simplement, effectivement, on n'a pas simplement des problème. On est en train d'engendrer des dégradations au très long cours. Hein, si vous regardez, par exemple, le changement de la composition chimique de l'atmosphère, c'est parti pour des siècles et peut-être même pour des millénaires. On ne sait pas exactement. Mais en tout cas, il y a un temps de résidence du CO2 dans l'atmosphère qui est très long, une inertie des systèmes. Et donc, une crise, c'est un moment de rupture assez court où on va passer d'une normalité à une autre. Ce qui est en train de nous arriver aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'anthropocène, le mot un peu barbare, mais c'est un changement très long, voilà, et très continu sur des siècles et des millénaires. Donc parler de crise, c'est vraiment manquer ce qu'on est en train de provoquer.
Mais ça veut dire que nous rentrons dans une terra incognita quand même.
Ah, complètement. C'est-à-dire, on est en train de changer tout simplement nos conditions naturelles d'existence. Les gens commencent à s'en rendre un petit peu compte quand on leur dit que février dernier est le plus chaud jamais enregistré. Il y a d'autres éléments qui permettent de le voir. Hein. Par exemple, entre 70 et 2010, on a fait disparaître la moitié des poissons, la moitié des mammifères, la moitié des oiseaux, la moitié des reptiliens, la moitié des amphibiens. C'était quand même un score pas mal. Donc voilà, et ça va pas rester sans conséquences. Mais le problème des conséquences de nos dégradations, c'est qu'elles se déroulent souvent au très long cours et avec chaque fois un espace entre la dégradation et les conséquences dont on commence à mesurer l'impact. Et on rentre justement dans cette époque où, petit à petit, les conséquences vont monter crescendo.
Et nous avons la chance d'être dans un pays tempéré, il faut bien reconnaître. Tandis que lorsque vous êtes un Inuit, lorsque vous êtes au Bangladesh, lorsque vous êtes au Burkina Faso, sur une bande subsaharienne, les conséquences sont déjà véritablement là.
Alors,
donc ça veut dire qu'après, pour agir, c'est pas pareil. Enfin...
Non, soit on agit à l'avance, soit on prend le risque d'être, si vous voulez, impuissant pour un temps indéfini. Et c'est la leçon justement du principe de précaution, d'où l'importance d'y revenir et de ne pas le saper de manière stupide sans savoir de quoi on parle.
Mais alors derrière tout ça, Dominique Bourg, c'est aussi la démocratie, on va dire, qui doit se revisiter. C'est-à-dire que l'écologie permet de revisiter l'économie, la justice, le droit, que sais-je, bon, et aussi la démocratie.
Alors bien sûr, c'est pas très agréable à avouer en quelque sorte, mais si vous regardez par exemple en 1980, la moitié des gaz à effet de serre, c'était le fait de deux pays, l'Angleterre et les États-Unis. Et effectivement, nous autres anciens pays industriels, c'est nous qui avons commencé et initié tout le flot des dégradations que tout le monde aujourd'hui continue. Donc nos démocraties se sont montrées relativement incapables à affronter le temps long. Et on le voit, par exemple, pour la COP21, la France s'en est orgueillie, effectivement, d'une belle réussite diplomatique.
Ça, c'est sûr. Oui.
On l'a oublié au bout d'un mois, hein, Notre-Dame-des-Landes, le préjudice écologique, etc. Bah, on vient un petit peu de rattraper le coup récemment avec les néonicotinoïdes. Mais manifestement, on n'est pas très bon sur ces sujets-là. Et donc, effectivement, l'écologie peut être un moyen de refonder la démocratie.
Qu'est-ce que ça vous dit, vous, ce référendum sur Notre-Dame-des-Landes, mais qui serait que sur la Loire-Atlantique, où on sait déjà par sondage que 58% des gens, surtout la population nantaise, va voter pour Notre-Dame-des-Landes, alors que si on élargit le cercle, et on le sait très bien, à d'autres départements, voire d'autres régions, là, c'est fini.
Alors non seulement ça, mais il y a même un appel récent de 200 pilotes d'avions, hein, 200 pilotes indiquant que ce projet n'a absolument aucun sens et qu'on peut absorber le trafic sans ajouter un nouvel aéroport. Donc là, on est sur un irrationnel absolu.
Monsieur, allez, on y va. Une petite question encore, je vous en prie. Avec plaisir.
Merci. Merci pour votre excellente émission tout le temps. Il y a en économie un paradoxe de Jevons. Jevons, c'était un qui est pas très rassurant quoi du point de vue d'écologie. Ça concerne plutôt l'énergie que la disparition des espèces. Qui dit donc Jevons, c'est un économiste du 19e siècle. Anglais, qui dit que on ne peut pas compter sur le fait d'améliorer la productivité des locomotives à vapeur pour diminuer la consommation de charbon, parce que si les locomotives à vapeur roulent plus vite, transportent plus de marchandises avec moins de charbon, on fera rouler plus de locomotives.
Alors, vous avez tout à fait raison. Hein. Jevons, c'est au 19e siècle, un des fondateurs de l'économie néoclassique, mais c'est aussi celui qui a compris ce qu'on appelle l'effet rebond. C'est-à-dire que quand on augmente les gains de productivité, c'est-à-dire que quand on peut produire un bien ou un service avec moins de matière et moins d'énergie, ça signifie qu'on abaisse le coût d'accès au marché de ce bien et donc que la consommation de ce bien augmente. Et effectivement, tout ce que les techniques nous ont apporté aujourd'hui, ça permet, en fait, au bout du compte, une pression exercée sur la biosphère de plus en plus importante. On ne s'en tirera pas qu'avec des techniques. En général, elles aboutissent à l'effet inverse.
Voilà. Alors, moi, j'ai envie quand même qu'on termine aussi par de jolies choses. Isabelle Lefort. Donc, là, c'est pas dans votre ouvrage, hein, c'est pas dans l'Atlas de la planète positive, mais ça pourrait y être. La France, en France, avec quelque chose qui s'appelle le grenier. Qu'est-ce que c'est, ça?
Oui, en fait, il n'est pas encore dans le livre parce que ce sera dans la prochaine.
Allez-y, émission. Racontez-nous.
Le Grenier, c'est une entreprise d'insertion qui est au Havre. Ce sont 56 femmes en grande difficulté qui travaillent pour trier les vêtements qui sont récoltés dans la communauté des communes. Et en fait, c'est 400 tonnes de vêtements récoltés et triés qui sont soit recyclés directement en matière, soit vendus au kilo, soit vendus parce que de bonne qualité dans trois boutiques au Havre. Et en fait, effectivement, merci beaucoup. On organise le forum de l'économie positive au Havre du 13 au 17 septembre prochain avec Positive Planète. Et on va organiser avec Christian Lacroix un grand défilé avec ces femmes pour mettre en valeur leur travail. Et c'est un... On ne peut pas rêver d'entreprise positive aussi belle que celle-ci.
Voilà, on va terminer donc là-dessus en remerciant Stéphane Ronxin, notre réalisateur, Claire Destacan, Albert Houck, Patrice Klein, j'oublie un certain nombre de personnes, Thierry Dupin qui a choisi les disques, Anne Gouzon qui nourrit les sites, vous, cher public qui êtes là, mais oui! Je signale, ça c'est important, d'ailleurs je vais en présenter un bientôt dans l'atelier du Mont-Petit-Loup, qui aura lieu donc demain à 19h54, le tracteur au dromadaire de Yannick Jolin et de Marie-France Goyet aux éditions du Rêve Bleu, formidable livre, et toujours de Yannick aussi, la Chenouille, c'est donc la Chenouille, ça aussi c'est pour les enfants aux éditions du Rêve Bleu, on va vous mettre tout ça sur le site de CO2, et on se retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine. Dans quelques instants, je vous l'ai présenté tout à l'heure, donc c'est la librairie francophone avec Emmanuel Kerr.